Passion Logement, une émission proposée et présentée par la FNAIM, la Fédération Nationale de l'Immobilier, avec son président, Jean-Marc Taureau-Lyon.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par bienici.com.
Bienici.com, site d'annonce immobilière nouvelle génération.
Bien le bonjour les amis, je suis très heureux de vous revoir pour cette tribune Passion Logement qui vous a certes un peu manqué, mais rassurez-vous, à partir de ce mois-ci, le mois de mars, ce sera diffusé le 8 mars exactement, chaque mois vous retrouverez la tribune de la FNAIM pour vous apporter, vous les professionnels mais pas que, les informations nécessaires pour décrypter le marché immobilier. Je suis toujours accompagné du président de la FNAIM, Jean-Marc Taureau-Lyon est avec nous.
Bonjour Sylvain.
Comment allez-vous Jean-Marc ?
Eh bien très bien, et puis très heureux de se retrouver, et très heureux en plus de se retrouver physiquement.
Voilà, voilà. Vivement qu'on puisse se faire tous des câlins, parce qu'à un moment donné, ça commence à suffire. Justement au préambule, Jean-Marc Taureau-Lyon, les annonces qui ont été faites avec confinement, peut-être pas partiel, qu'est-ce que ça évoque comme ça pour poser le décor ?
Oh, ça évoque évidemment une profonde inquiétude, mais j'ai presque envie de vous dire qu'on va bientôt fêter un an d'anniversaire d'une période où on a enchaîné les confinements. Parce que si je me souviens bien, il y a un an, à ce moment-là, on était dans l'anxiété de savoir ce qui allait se passer. Avec, à l'époque, un gouvernement qui, je me souviens en particulier du ministère du Logement, qui était lui aussi un peu dans l'expectative au regard d'un certain nombre d'enjeux, je pense à la copropriété. Sur les zones où il y a des mesures départementales, eh bien, on les applique, notamment pas de visite le samedi. Hein, voilà, il y a des jauges qui sont maintenant fluctuantes en fonction des départements. Donc nous, on a une extrême vigilance pour restituer à nos adhérents la réalité de ce qui est applicable dans chacun de leurs départements. Tout le monde économique, évidemment, souhaite qu'il n'y ait pas de confinement. Je dois considérer aussi que, pour le coup, peut-être monsieur notre président a peut-être été courageux, parce que je crois que par rapport à l'ensemble d'un discours ambiant, il a tenu à ce que pour l'instant, il n'y ait pas de confinement. Le monde économique l'en est gré. Mais je pense que les Français aussi, parce que ce n'est pas facile. On vit une période difficile. Et puis, moi, j'ai l'anxiété aussi pour toutes mes agences de location saisonnière qui pensent déjà à l'été et qui ne savent pas comment ils vont
se dérouler. Oui, vous avez publié d'ailleurs, ouais. Vous avez fait un tweet très remarqué sur la question. Vous avez même demandé, et j'ai même posé la question aux politiques, vous avez demandé à ce que les agences saisonnières soient considérées comme des entreprises de la restauration ou de l'hôtellerie.
Absolument, parce que c'est très particulier, la location saisonnière. Nos agences de location saisonnière de la montagne, elles sont dans leur tissu montagnard. Elles n'emploient que des montagnards saisonniers ou en double activité, mais aussi des postes de salariés. À peu près un millier de salariés, hein, je le rappelle, plus 500 saisonniers. Elles assurent 7 700 000 nuitées chaque saison, c'est 21% du marché des lits chauds, et elles ont un rôle important parce que derrière cette activité de location saisonnière, il y a le financement d'une activité de syndic indispensable et d'une activité de transaction, bien sûr. Et donc, moi, ce que je dis, c'est que ce type d'entreprise qui est en mono-activité sur des mono-territoires et qui ont un rôle déterminant dans la distribution des lits touristiques en France doivent absolument être aidées. Quelle est ma grande crainte ? C'est qu'au fond, elles abandonnent cette activité, qu'elle se replie. À ce moment-là, que va-t-il se passer ? Il n'y aura pas ces acteurs intégrés à la chaîne du logement montagnard. Il n'y aura plus ces gens qui sont participatifs dans les centrales de réservation, participatifs dans leur économie locale. Et ça sera fâcheux pour l'emploi.
Est-ce que vous avez obtenu gain de cause ?
Non. Je n'ai pas obtenu gain de cause, malgré, je le reconnais, de très grosses discussions, notamment avec le ministère d'Alain Griset, qui est très réceptif, mais qui nous demande d'objectiver bien plus nos arguments. Je les comprends parce qu'au fond, au regard de l'ensemble des demandes qu'ils ont à gérer, eux, ils considèrent que celle-ci est peut-être soutenue par d'autres activités. Mais cet objectif, le fait d'objectiver notre démonstration, parce que moi, je ne renonce pas comme ça, hein, on est en train de le faire et on va leur livrer de nouveau un document qui, à mon sens, sera, enfin, je l'espère en tout cas, suffisamment démonstratif de l'intérêt de ce secteur. Et encore une fois, derrière la montagne se cache d'ores et déjà une anxiété des 800 agences qui pratiquent la location saisonnière en bord de mer.
Absolument, c'est les stations. Et à la campagne. Absolument, j'allais vous poser la question, c'est les stations balnéaires. Encore un combat que vous menez, Jean-Marc Taureau-Lyon. Alors, plusieurs sujets sur lesquels je voulais vous interroger pour cette tribune. La Convention climat a fait couler beaucoup d'encre, Jean-Marc Taureau-Lyon. Vous avez beaucoup, beaucoup publié, beaucoup évoqué l'enjeu majeur de la rénovation énergétique. Où est-ce que vous en êtes à ce niveau-là ?
Alors, sur la convention climat et résilience, objectivement, d'abord, on a entre les intentions et la réalité, il y a un écart, et heureusement, mais je voudrais quand même attirer l'attention sur un point fondamental. 5 millions de logements seront demain potentiellement inlouables. C'est-à-dire qu'il y a le 1 700 000 logements du parc privé locatif.
On parle de 2025 ou 2028.
1er janvier 2028 pour prendre les F. Mais déjà 2025 pour les G. Et je voudrais quand même souligner que c'est quand même assez révolutionnaire. Parce qu'au fond, le droit de propriété en France, c'est l'usus, l'abusus et le fructus. C'est les trois éléments. Les Romains nous ont donné le droit de propriété, les Grecs la démocratie. Et en fait, on est en train de dire à 5 millions de concitoyens, eh bien, le droit de louer, vous l'aurez plus. Ce n'est pas anodin. Et ça va impacter, à mon sens, bien au-delà de ce que l'on imagine, les parcs privés en location dans certaines communes.
Vous voulez dire que c'est une ingérence dans le droit de propriété ?
Ah, c'est fondamentalement une ingérence dans le droit de propriété. Alors, qu'est-ce qu'on met en face ? On met en face le droit à l'environnement. Et moi, je ne dis que cette ingérence-là, ou en tout cas cette atteinte au droit de propriété, elle n'est acceptable, selon la Fédération nationale de l'immobilier, que si on y met les aides qui doivent accompagner cette nécessaire rénovation énergétique.
Et c'est le cas avec MaPrimeRénov'.
MaPrimeRénov', ce n'est pas suffisant. MaPrimeRénov', c'est pour 2 ans. Moi, je souhaite un engagement de l'État sur une loi pluriannuelle. Quand on porte atteinte au droit de propriété comme cela, et on accompagne le mouvement, il faut qu'on ait derrière une sanctuarisation des aides. Moi, je demande également à ce que le De Normandie dans l'ancien soit étendu jusqu'en 2028 à toutes les reventes de biens F et G. Pourquoi ? Parce que je crois malgré tout qu'on risque un désinvestissement et que ce désinvestissement va affecter le parc locatif dans nos centres bourgs. Parce qu'on sait qu'un tiers du parc privé locatif a été construit avant 1945. On sait également que les 2/3 de ce parc, c'est avant 1975. Et donc là, on est sur des équilibres qui peuvent être redoutables pour certaines communes. Donc, évidemment, le De Normandie dans l'ancien, pour maintenir en cas de désinvestissement ces biens dans le parc privé locatif, le doublement déficit foncier imputable sur le revenu pour créer un effet booster dans nos copropriétés.
Un soutien fiscal, voilà.
Un soutien fiscal et le maintien des aides, évidemment, pour les déciles les plus faibles.
Et l'extension de MaPrimeRénov' à la copropriété, au syndic de copropriété, c'est une bonne chose.
C'est une très bonne chose parce que j'étais dans la mission de Chalandard qui l'a proposé. C'est une excellente chose. Mais. Et le fait que MaPrimeRénov' soit également pour les bailleurs, c'est une excellente chose. Mais ça ne sera pas suffisant. Je le dis, ça ne sera pas suffisant. Le concept de massification, il faut bien comprendre ce que c'est. 5 millions de logements d'ici 2028, c'est quand même extrêmement important.
Mais ça paraît même inatteignable quand on prend les chiffres. Parce que ça nous laisse à peu près entre 5 et 6 ans. Comment vont faire les gens la masse est trop importante. On avait fait des estimations à une époque sur les problématiques de rénovation. On estimait qu'il fallait 10 à 15 ans au minimum pour vraiment achever la rénovation du parc ancien.
Alors après, ça dépend aussi où est-ce qu'on veut l'emmener.
On est quand même sur des temps longs. Je pense les rénovations par l'extérieur, par exemple, en termes de rénovation énergétique, les problématiques qui sont liées à la structure même des bâtiments. Puisqu'aujourd'hui, on se refuse, les collectivités se refusent à déconstruire leurs bâtiments. Donc, du coup, forcément, il faut les rénover. Ce sont des enjeux majeurs. Et si on tient compte aujourd'hui d'une très faible, grande faiblesse de la construction neuve et d'une démographie qui est quand même plus élevée, il va falloir loger les gens.
Si on met bout à bout le problème de l'artificialisation des sols, la chute de la construction neuve et potentiellement 5 millions de logements qui demain sont mis au rebut sur l'angle locatif...
On se prépare à une crise, là.
On se prépare à une crise. Vous avez parlé des collectivités territoriales. Nous poussons des amendements. Nous poussons des amendements que nous avons proposés au gouvernement pour que les collectivités territoriales soient beaucoup plus participatives sur ce sujet. Parce que derrière le discours, en réalité, il n'y a pas de politique. Moi, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, vous avez des périmètre de ravalement obligatoire dans les grandes villes de France, il n'y a aucune obligation de rénovation énergétique derrière. Aujourd'hui, on a des immeubles des années 60 qui sont en train de se rénover, à qui on demande 9 ou 10 000 euros de quote-part de ravalement de façade. Derrière, il n'y a pas d'enjeu énergétique. Si les collectivités territoriales ne s'emparent pas de cela, ne le déclinent pas dans leurs plans locaux d'urbanisme, par exemple dans les orientations d'aménagement programmé des OAP dans les PLUI, eh bien, on aura une politique nationale qui n'aura aucune déclinaison fine sur le plan local, car il faut une déclinaison fine. Chaque commune, chaque ville a son immobilier. On ne traite pas une ville comme Colmar avec son centre ancien clairement. Comme une ville qui a été bombardée pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui a été entièrement reconstruite. Grenoble, que je connais bien, a un immense parc des années 60 qui est à rénover. Comment on va le traiter ? Et donc, les collectivités territoriales, à mon sens, doivent s'emparer dans leurs documents d'urbanisme de cette déclinaison, doivent avoir une certaine latitude pour la décliner finement et pouvoir, derrière, soyons clairs, appliquer elles aussi une politique d'accompagnement. Et on dépolitise à ce moment-là le débat. On en fait bien un enjeu d'intérêt général avec la déclinaison qui part de l'État jusqu'aux EPCI.
Alors, l'ingérence, effectivement, sur le droit de propriété, c'est quelque chose qu'on va développer, justement, par rapport à ça, parce qu'effectivement, ça questionne énormément. Je voudrais que, justement, on fasse cette transition avec l'actualité du marché immobilier. Le stock de mandats n'a jamais été aussi bas, Jean-Marc Torollion. Il faut remonter à pratiquement 2002 pour retrouver, finalement, des chiffres alarmants, conjugués, effectivement, avec, et ça, c'est sans commune mesure, une faiblesse de la construction neuve qui est absolument dramatique, et les entreprises du bâtiment qui sont là carrément dans le rouge vif. Quand vous devez aujourd'hui voir l'actualité, j'ai vu que, effectivement, vous, à la Fédération, vous avez passé plutôt une année résiliente, on va dire, plutôt bonne. Effectivement, les allocations d'actifs immobiliers se sont bien portées par rapport à la crise et au marasme ambiant. Quid de l'actualité 2021, Jean-Marc Torollion ? Comment vous voyez le marché immobilier traditionnel avec des stocks qui sont aussi bas et qui peuvent alerter les personnes. On a interrogé quelques agents immobiliers qui nous disent on était sur des moyennes entre 10 et 15 mandats en vitrine. Aujourd'hui, on est entre 3 et 5, soit 3 fois moins en moyenne dans certains territoires.
Ah, c'est ça. Moi, j'ai fait le point avec mon équipe de vente à Grenoble. Là où ils avaient en moyenne entre 15 et 18 mandats chacun, ils en ont 6. Alors, comment on interprète
3 fois moins.
Voilà. Comment on interprète ça ? D'abord, voyons d'où on part. 1 024 000 transactions actées en 2020. Personne n'aurait signé pour un chiffre pareil.
Ah, clair.
Et globalement, nos entreprises se sont plutôt bien sorties de cette année 2020 qui était à tous égards bien anxiogène. Ceci étant, double phénomène. Premièrement, un phénomène de restriction de l'offre. On garde son immobilier en période de crise et d'incertitude. Et donc, ce que vous décrivez, Sylvain, c'est aussi le fait que des vendeurs sont moins présents sur le marché. Ce qui ne signifie pas que ce qui se présente ne tourne pas vite. Donc, dans la notion de stock d'une agence, il y a aussi la notion à quelle vitesse j'arrive à vendre, et on vend relativement vite encore. Et donc,
La demande est toujours aussi soutenue.
La demande reste soutenue, même si, de mon point de vue, elle est bien moins forte que l'année dernière, parce qu'en l'année dernière, on était encore sur des gens qui avaient des projets initiés avant crise. Là, on est vraiment sur des acquéreurs qui ont totalement intégré la crise.
Donc les porteurs de projets, on va dire, immobiliers, ont été moins prudents, oui. Moins nombreux, oui. À la limite. Ils diffèrent dans le temps.
Oui. D'ailleurs, quand vous êtes vendeur, en France, quand vous êtes vendeur, c'est souvent pour racheter. Quand vous avez un parcours résidentiel, c'est pour racheter. Le fait qu'il y ait moins de vendeurs, c'est déjà une forme de restriction dans la volonté que peuvent avoir des ménages ou des investisseurs.
Et ça, c'est la crise. On est d'accord. C'est la crise sanitaire.
Ça, c'est la crise. Ça, c'est la perception. C'est la perception aujourd'hui que l'on peut avoir de sa situation personnelle au regard d'une année 2021.
Donc je vais plus loin. Oui. Donc, si on sort de la crise sanitaire avec, on l'espère, d'ici la fin de l'année, une vaccination générale, il est possible que le marché reparte plutôt bien en 2023. 2022-2023.
Ah oui. D'autant que les taux d'intérêt sont très bien orientés.
Et ils resteront.
Ils le resteront. D'autant que l'investissement immobilier apparaît malgré tout, j'allais dire, comme toujours, comme étant extrêmement solide sur ses fondamentaux. Donc moi, je suis plutôt raisonnablement optimiste. Et évidemment.
Donc pour vous, c'est quoi ? C'est une période un peu difficile.
Oui,
qu'est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs ? Est-ce qu'ils doivent se préparer à une période un peu compliquée, les agents immobiliers, là, en ce moment ?
Oui, je pense qu'ils vont avoir un problème de chiffre d'affaires lié simplement au volume et non pas à l'activité. L'activité est bonne, c'est pas une crise en soi sur la valeur, c'est bien une crise sur des volumes liés à une restriction de l'offre propre à nos acteurs économiques que sont des vendeurs. Vous savez, pour faire 1 million de ventes, il faut à la fois 1 million d'acquéreurs, mais il faut 1 million de vendeurs, c'est-à-dire des gens qui décident de vendre. Ben, on sent bien que là, ils sont pas au rendez-vous. Je dis aussi à nos confrères qu'évidemment, ça va être très concurrentiel sur le terrain, ça va frotter. Donc, comme il faut faire parler à ce moment-là, bien évidemment, le professionnalisme. Et puis, je leur dis que malgré tout, leur force de vente, il faut qu'ils les conservent parce que moi, je crois à un deuxième semestre de rebond.
Et les inciter aussi à se diversifier, à faire plus de gestion locative, à aller vers des métiers un peu plus de récurrence. Est-ce que vous pensez que les agents immobiliers pourraient finalement enfin peut-être arriver à avoir une polydiscipline, finalement plusieurs disciplines? Est-ce que vous pensez que c'est bon pour les affaires?
Alors, quand on a...
Vous êtes de ceux qui ont défendu hein, les lignes métiers. Hein, ouais.
Quand on est un transactionnaire dans l'âme, devenir un administrateur de biens et un syndic, c'est toujours difficile. Mais moi, j'ai toujours donné ce conseil-là et je le donne toujours à nos indépendants. N'hésitez pas à vous associer. N'hésitez pas à vous regrouper. Vous pouvez conserver votre indépendance en transaction et vous regrouper sur le syndic et la gestion locative. La transaction, capitalistiquement, c'est assez faible en intensité. En revanche, la gestion et le syndic, on sait que les seuils de rentabilité sont redoutables, on sait que les coûts en amont sont redoutables, on sait aussi que les métiers se sont professionnalisés et singularisés. Moi, quand j'ai démarré ce métier, je commençais le matin en faisant un état des lieux, je faisais un compromis l'après-midi et une assemblée générale le soir. Cette hyper polyvalence-là, elle est de moins en moins vraie parce que les métiers sont devenus de plus en plus techniques. Et ces métiers sont devenus aussi, en termes financiers, de plus en plus redoutables en matière d'investissement et de financement. Mais bien évidemment, ce qui fait que l'immobilier a remarquablement traversé cette période, c'est qu'elle a su conserver sa récurrence forte et sa récurrence sur les métiers de syndic. Parce que c'est un métier d'avenir, le syndic, je le redis. Hein. Et la gestion locative, c'est quand même exceptionnel pour nos entreprises.
Merci Jean-Marc Torlion. Alors justement, il nous reste encore quelques minutes. On va faire une tribune un peu plus longue ce mois-ci, puisque beaucoup d'actualités. Il y a deux sujets sur lesquels il faut absolument qu'on vous écoute. On parlait beaucoup de rapprochement syndical, des unions syndicales. Grosso modo, on parle d'une seule voix. Vous avez été, Jean-Marc Torlion, sérieusement malmené par les différents politiques ces dernières années, l'immobilier en soi, même s'il y a eu effectivement une action syndicale très forte où vous avez obtenu beaucoup de choses, notamment, je me souviens de l'inscription dans la loi du titre d'agent immobilier, qui est quand même une victoire importante hein, pour la reconnaissance du métier. On en parle beaucoup, hein, vous savez, il y a beaucoup de fantasmes hein, sur les réseaux sociaux. Certains disent ça se fera, d'autres ça se fera pas. Je pensais donc le rapprochement, vous le savez, avec l'UNIS notamment. Où en êtes-vous, Jean-Marc Torlion, de cette unité syndicale? Est-ce qu'elle est toujours possible?
Ah, elle est toujours possible, elle est toujours d'actualité. Nous avons achevé notre parcours des territoires avec Madame Dubrac, Danielle, nouvelle présidente de l'UNIS, qui a absolument quand même dû reprendre ce sujet. C'est pas facile non plus, il faut aussi laisser du temps. Nous avons très prochainement un bureau exécutif commun pour faire un point d'étape dans ce dossier. Et il y aura forcément une initiative commune. Il y aura forcément une initiative commune. Sera-t-elle à la hauteur de ce que certains espéraient, c'est-à-dire un syndicat unique immédiatement? Ça va être, à mon sens, assez difficile, mais on aura une initiative...
Une infrastructure, peut-être, de représentation.
Ouais. On aura une initiative commune forte. Je veux pas me dévoiler là-dessus. Après, la Fédération nationale de l'immobilier, elle se porte plutôt bien. Nous avons eu la satisfaction d'avoir Square Habitat qui nous rejoignent en bloc.
Absolument.
Et je dois dire que c'est une adhésion militante qui est la reconnaissance des combats que nous avons menés depuis 2018 à tout point de vue. Et ça nous fait plaisir. On a également intégré d'autres petits groupes. Donc, la Fédération nationale de l'immobilier, j'allais dire, est plutôt...
D'ailleurs, 2020 a marqué la croissance en nombre d'adhérents.
Ouais. Oui, oui, on a en 2018, on a recruté 565 adhérents. En 2019, on en a recruté 685. En 2020, 887.
C'est énorme.
Voilà, et j'ai fixé la barre à 1 000 000 d'adhérents. Voilà. Après, il y a des départs. Hein.
Oui,
attention,
oui, d'accord, oui.
Parce que nous avons aussi à peu près 200 à 300 départs par an liés essentiellement à des arrêts d'activité.
Mais la courbe est positive. Elle est très positive parce que c'est vrai que vous avez remis en état, on peut dire, la fédération. Serez-vous, Jean-Marc Torlion, le président justement de cette union d'une voix? Alors, on va pas entrer dans les détails techniques, mais il vous reste pratiquement 2 années de mandat. Et c'est vrai que vous avez des statuts dans lesquels vous ne vous représenterez pas. Hein, vous ne ferez qu'un seul mandat. Ça vous met la pression quand même. Hein.
Oui, alors ça me met oui et non. C'est-à-dire que j'en avais pas fait un objectif de mandat. C'est-à-dire que quand j'ai été élu, dans mon programme, il n'y avait pas un rapprochement écrit entre l'UNIS et la FNIM. C'est-à-dire l'UNIS qui est venu nous voir à ce sujet-là. Donc effectivement, ça nous met la pression. Mais je dois dire que c'est pas ma personne qui compte. C'est-à-dire que voilà, c'est pas ma personne qui compte. J'ai quelques objectifs encore à atteindre dans ce mandat et je mettrai un point d'honneur à les atteindre. Mais cet objectif-là, il faut qu'il se fasse dans la concorde, qu'il soit mûri. Et si j'ai déjà mon équipe mis notre pierre à l'édifice pour que ça devienne inéluctable, ça sera déjà très bien. Très, très bien. Alors, je sais bien, les groupes souhaiteraient, par exemple, un syndicat unique. Hein,
vous parlez de Pluriance, par exemple.
Voilà, je parle de Pluriance, mais voilà. Je les comprends avec leur logique à eux.
Bien sûr.
Mais voilà, moi, je les invite aussi à
Mais vous avez toujours été très ouvert sur cette question,
oui.
Il faut le dire.
Oui.
Vous n'avez jamais été un président réfractaire à cette idée.
Ah non, non, non.
Par contre, il y a des ADN dans lesquels vous devez conjuguer. Et c'est vrai que c'est un peu. Il y a un enjeu politique, clairement.
Oui, il y a un enjeu politique, un enjeu d'intérêt général global. Et puis, il faut, je pense qu'il faut aussi que localement, vous savez, l'intérêt de cette tournée des territoires, c'est qu'on s'est tous découvert localement. Moi, je crois que, j'ai souvent dit ça dans le terrain, c'est pas le projet d'une femme et d'un homme ou de deux hommes quand Christophe Tanné était là. Il faut que ça soit le projet de nos territoires.
Bien sûr. Voilà.
Et puis après, on embarque. Et après, il n'y aura plus de difficultés. Si c'est une alliance d'appareils, ça ne marchera pas. Si c'est une alliance de militants...
Qui vient de la base,
voilà,
absolument.
Si c'est une alliance de militants, on emportera tout.
Je pense que vous avez... c'est la règle du bon sens. Juste, il nous reste une minute. Les grands enjeux de la Fédé, à court et à moyen terme, quels sont les grands rendez-vous, Jean-Marc Torollion ? Je sais que vous êtes activement en train de préparer un congrès hybride, on peut dire les choses comme ça, parce que vous avez déjà retenu l'idée d'avoir l'équivalent d'un jumeau numérique pour le prochain congrès. Quels sont les grands rendez-vous, Jean-Marc Tornion ?
Alors, les grands rendez-vous de la Fédération, c'est évidemment des rendez-vous statutaires. Vous avez cité le congrès, son Assemblée Générale, mais j'aurai une très belle Assemblée Générale au mois de juin où on aura plaisir de se retrouver physiquement parce que j'ai quelques enjeux statutaires. Nos grands rendez-vous, c'est de réussir à faire porter notre voix en matière sur la Convention Climat et Résilience. On a quand même un certain nombre d'amendements, non pas défensifs, mais techniques, que l'on a poussés. C'est de mettre le syndic au centre de la rénovation énergétique et je crois que Emmanuel Wargon va bientôt nous solliciter sur le terrain pour que nous signions cette convention des 50 000 copropriétés dont on a pris l'engagement d'entamer la rénovation d'ici 3 ans. Et je n'oublie pas un combat qui est toujours le combat de la reconnaissance de nos titres, de la respectabilité, et nous y travaillons et j'ai bon espoir d'avoir une belle surprise, je l'espère en tout cas, sur l'année 2021.
Alors je vous trouve toujours très en forme, Jean-Marc Torollion.
Écoutez, d'abord, 5 ans de mandat, il faut bien voir que c'est long. Mais derrière, finalement, je trouve que moi, je suis extrêmement enthousiaste, toujours. Et ma motivation est intacte. Et avec mon équipe, elle est intacte. Et donc, c'est ce qui nous porte, au fond. C'est ce qui nous porte. Après, quand on regarde rétrospectivement un tout petit peu maintenant, on aura quand même eu plus d'un an de crise pandémique. Et pour un leader syndical, c'est quand même des périodes pour lesquelles on n'avait pas signé, si je puis dire. Voilà. Et on a cet enjeu d'animation, de garder le feu sacré, si je puis dire, le feu sacré de nos adhérents, le feu sacré de la Fédération, le feu sacré de l'intérêt général avec mes amis de Pluriance et de l'UNIS. Et de ce point de vue-là, j'ai un moral de guerrier.
Et finalement, voilà, on est bien dans l'idée de cette tribune. C'est une passion, c'est la passion chevillée au corps de Jean-Marc Torollion. Toujours un plaisir. On se retrouve le mois prochain, Jean-Marc Torollion.
Avec plaisir.
On va se retrouver au mois d'avril avec le printemps qui va commencer à poindre son nez, justement, toujours, mesdames et messieurs, pour suivre cette actualité de la Fédération de l'Immobilier, mais aussi, pas que, de tous les professionnels de l'immobilier, parce que la Fédération nationale de l'immobilier est ouverte à l'ensemble de l'industrie immobilière. Voilà, merci Jean-Marc Torollion.
Merci Sylvain.
Et au mois prochain.
Passion Logement, une émission proposée et présentée par la FNIM, la Fédération nationale de l'immobilier, avec son président Jean-Marc Torollion.
Radio-immo.fr.
Une émission présentée par bienici.com.
Bienici.com, site d'annonce immobilière nouvelle génération.